On va commencer maintenant. On va invoquer l'Esprit Saint, qui, je dis toujours, c'est une garantie. Quand on prie au début, on peut se dire qu'il peut arriver n'importe quoi. Au moins, on n'a pas perdu son temps. On a prié. Voilà. Alors j'essaierai et j'espère que la suite ne vous décevra pas. Mais en tout cas, déjà, demandons à l'Esprit Saint d'éclairer à la fois celui qui prendra la parole et ceux qui vont écouter. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous arrivons enfin au texte de l'Évangile. La dernière fois, c'était l'introduction, c'est un peu austère. Vous me direz, je repousse toujours le moment où ça devient plus facile, puisque le début de l'Évangile, c'est le prologue, qui est un vrai moment de contemplation absolument magnifique, mais qui est lui aussi assez austère, parce que c'est pas encore du récit, comme nous en aurons plus tard dans l'Évangile. Alors, bravo pour votre persévérance et votre attention, mais je pense que la lecture de Saint Jean vaut vraiment le coup de cette exigence d'un style que, comme je le disais la dernière fois, qui est très particulier, assez réservé, peu de vocabulaire, une pensée extrêmement forte, une certaine tension dans la manière d'écrire, mais le bénéfice, évidemment, est immense. Alors, comme je viens de vous le dire, nous allons regarder aujourd'hui le prologue et, j'espère bien vous le montrer tout à l'heure, le récit du baptême de Jean qui en est comme le deuxième volet, qui prolonge ce prologue, qui nous fait entrer dans le récit de la vie de Jésus. Un exégète, le père Simoens, d'ailleurs j'en profite pour vous dire que j'ai refait une bibliographie un peu plus complète avec notamment l'ouvrage du père Simoens, Simoens, je ne sais pas s'il y en a qui parlent le flamand, voilà, Simoens. Il a écrit un livre que je trouve très intéressant et je reprends un certain nombre d'idées qu'il propose, et notamment cette idée de voir le prologue en deux volets, un prologue hymnique et un prologue narratif, un prologue hymnique, parce que les 18 premiers versets, au commencement était le Verbe était auprès de Dieu, le Verbe était Dieu, vous connaissez bien, nous l'avons le jour de Noël, à la messe solennelle de Noël. Ce prologue hymnique, un style qui est assez particulier, et qui ouvre ensuite à un récit, d'où le nom de prologue narratif, il y a une narration, le baptême de Jean. Voilà. Nous allons voir tout simplement ces deux parties, c'est pas très compliqué. La lecture d'un évangile, il suffit de suivre la trame telle qu'elle est. Je vais vous lire simplement les premiers versets du prologue. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement avec Dieu, tout fut par lui, et sans lui rien ne fut. Ce qui fut en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisi. En entendant ces quelques versets, nous entrons déjà dans le style de Jean, et nous voyons qu'il s'agit vraiment d'une ouverture. La première chose que nous pouvons dire, c'est que Jean commence de façon assez solennelle, comme le livre de la Genèse, sûrement de façon très volontaire. Jean commence avec l'expression « au commencement, énarché », comme nous l'avons au début de la Genèse, « au commencement ». On sait comment, au début de la Genèse, la parole joue un rôle important. Dieu crée par sa parole. Eh bien, Jean commence avec cette affirmation synthétique « au commencement était le Verbe ». Voilà, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et Dieu dit, plusieurs fois Dieu dit, cette réflexion sur la parole aboutit à l'évangile selon saint Jean. Seulement, dans la Genèse, il est question immédiatement de la création. Ici, dans l'évangile, saint Jean nous donne de contempler le Verbe, la parole, celui qui est tourné vers Dieu, en qui tout a été créé. Hein. Le Verbe fait chair. Finalement, tout tourne autour de Jésus. Ce que Jean veut nous montrer, c'est que Jésus, qui est l'objet de tout l'Évangile, était au commencement. Avec saint Jean, nous prenons le temps de regarder le commencement. Pour comprendre, j'allais dire, le présent et notre vocation, il s'agit de connaître ce qu'il y a à l'origine, ce qu'il y a au commencement. Hein, donc cette expression est extrêmement forte. On peut dire que le « au commencement » de la Genèse, de Genèse 1, ouvre le Pentateuque, ouvre l'Ancien Testament, ouvre toute la Bible. Eh bien, on peut dire qu'avec saint Jean, ce « au commencement », énarché en grec, ouvre une contemplation, une méditation sur le Christ. Hein, le Christ lui-même, c'est le Christ qui nous fait connaître ce qu'il y avait au commencement. Alors, on s'est beaucoup posé la question sur le sens du verbe, le logos en grec. Nous traduisons verbe en français, hein, à cause de la traduction latine, verbum, un terme grec. Donc, évidemment, on va chercher du côté grec. Le logos désigne la parole, ça vous le savez, mais aussi la raison. Hein, d'ailleurs, on le retrouve dans le français, on dit logique, hein, voilà, la raison, logique, voilà, un monologue, etc. Hein. Alors c'est un terme qui a joué un rôle très très important dans la philosophie grecque. Il y a des philosophes parmi nous, ils pourront nous en parler. Hein, les stoïciens et Philon ont fait cette distinction qui est devenue fameuse et qu'on retrouve que les pères de l'Église ont reprise à leur compte. La distinction entre le logos intérieur, en grec c'est le logos endiathetos, le logos immanent, c'est-à-dire la pensée conçue dans l'esprit, et le logos prophorikos, c'est-à-dire la parole proférée. Hein, si vous parlez à quelqu'un, ce que je suis en train de faire, on peut espérer qu'il y ait, j'espère vous rassurer, j'espère que c'est le cas, hein, qu'il y ait un peu de pensée avant que la parole ne sorte. Voilà. Mais la parole, il y a les deux. Il y a d'abord la pensée, donc d'une certaine manière la raison, hein, la manière de voir la cohérence d'une idée, et ensuite l'expression de cette parole, parce que cette pensée est capable d'elle-même d'être exprimée. Donc, logos endiathetos, logos prophorikos. Et cela n'est sûrement pas absent de la pensée de saint Jean, mais la conclusion de certains exégètes à une certaine époque, exégèse libérale, qui revenait à dire ben, Jean a hellénisé la Bible, donc saint Jean serait simplement un texte de culture hellénique, mais qui n'a plus aucun rapport avec le monde juif, ça c'est tout à fait non seulement excessif, mais tout simplement faux. Hein. L'évangéliste ne se réfère pas d'abord au logos de la pensée grecque, hein, donc la raison, c'est cette vision un peu idéaliste, immatérielle, intellectuelle, hein, mais il se réfère d'abord à la Bible et à la tradition juive qui connaissait, qui avait déjà intégré le terme de logos. Hein, le terme de logos, il faut bien se rendre compte que dans le judaïsme, au temps du Christ et au temps de saint Jean, il y avait déjà une culture hellénique, mais avec ce fond sémitique, hein, donc des juifs, ils étaient très nombreux à Alexandrie, on a eu déjà l'occasion de l'évoquer la dernière fois, mais même en Terre Sainte, hein, on a bien des indices qui montrent que le grec était parlé, il y avait une connaissance de la littérature grecque, et le terme de logos avait déjà été repris chez les maîtres juifs pour traduire la parole. Alors évidemment, donc la parole telle qu'elle apparaît dans la loi et les prophètes, hein, c'est la davar, la parole, Dieu qui parle, hein, davar en hébreu c'est la parole au sens très concret, la parole événement, la parole qui réalise ce qu'elle énonce, mais c'est aussi l'idée de sagesse, hein, ces deux aspects sont résumés dans ce qu'on appelle la memra. Hein, c'est également une racine hébraïque qui renvoie au fait de parler. Hein, vayomer, hein, et il dit, hein, c'est la racine de la parole. Hein. La memra, hein, c'est un mot hébraïque qui reprend la davar et l'idée de sagesse. Eh bien, c'est cela que saint Jean a présent à l'esprit quand il emploie le terme de logos. Donc, au commencement était le logos, c'est-à-dire cette parole de Dieu qui était là au moment de la création, qui s'exprimait à travers la sagesse, hein, qui est vu comme finalement quelqu'un de vivant qui est auprès de Dieu, eh bien, c'est d'elle qu'il est question. Hein. Voyez, c'est très différent. Jean n'a pas une vue purement intellectualiste. Il se rattache à toute l'histoire d'Israël, à la révélation faite à Israël. Hein. Et évidemment, il franchit un cran en disant cette parole, elle n'était pas simplement quelque chose d'accessoire, elle était au commencement. Hein, donc, auprès de Dieu, avec Dieu et même en Dieu. Une affirmation d'une très grande force. Alors, c'est vrai que en reprenant ce terme de logos, pour traduire d'avar ou bien la memra, Jean fait un choix d'une très grande portée, hein, parce que il fait ce lien, comme l'a déjà fait la Septante, avec toute la réflexion grecque sur la parole comme raison. Hein, donc, la parole qui est le Christ, qui s'offre à la réflexion humaine, et une réflexion ouverte, missionnaire. C'est tout le miracle du grec dans le Nouveau Testament. Mais il faut bien se rendre compte de l'interaction des deux cultures, hébraïque, enfin sémitique plus largement, et grecque, mais surtout se dire que Jean est d'abord un juif qui connaît les Écritures et qui est nourri de la méditation de la Genèse, et c'est d'abord ça qui vient à son esprit. Après cette temps de contemplation, de méditation sur le Verbe, je vais m'intéresser non pas au Verbe avec un grand V, mais au Verbe au pluriel. Le Verbe, deux verbes, cette fois-ci je fais de la grammaire, deux verbes différents et qui sont employés dans le prologue d'une manière tout à fait consciente de la part de Jean et qui vont nous dire finalement la manière dont s'articule le prologue. Il y a tout d'abord le premier verbe, auquel on ne fait pas tellement attention, parce qu'il est omniprésent, c'est le verbe « être ». Dans le prologue, le verbe « être » a une importance capitale. Parce que quand on dit « le verbe était Dieu », le verbe « est Dieu », c'est d'une force immense. La parole, ce n'est pas uniquement un outil extérieur, la parole est en Dieu, la parole est divine. Qu'est-ce qu'on dit à travers ça ? Quand une maman prend son enfant, elle dit « tu es un amour ». Alors on peut dire qu'il y a une identité entre l'enfant et l'amour. Assez vite, la maman va se rendre compte que le verbe « être » est peut-être un peu excessif et que l'enfant n'est pas que substantiellement amour. Voilà, il est aussi un peu casse-pied. Voilà, substantiellement casse-pied, d'accord. Voilà, le verbe « être » n'a pas le même sens. Hein. Dire Saint Jean, le même Saint Jean reprendra le verbe « être » pour dire « Dieu est amour ». On ne fait jamais attention à cette parole. Petite parenthèse, j'en fais souvent, mais « Dieu est amour », en fait, c'est une parole qui a une portée métaphysique qui a conduit à réfléchir sur la Trinité. C'est-à-dire, c'est pas simplement « Dieu a de l'amour », mais « il est amour ». Or, « amour », ça veut dire « relation », il y a de la relation en Dieu. Dire « Dieu est amour », c'est pas la même chose que un mari qui dit de sa femme elle est un amour. Elle l'est sûrement, mais elle n'est pas dans le même sens. Le verbe être ici, chez Saint Jean, c'est au sens métaphysique, au sens le plus fort. Voilà. Et puis un autre verbe auquel on ne fait pas attention non plus, parce qu'il est très courant, un verbe en grec ginomai. Alors, le premier c'est eimi, le deuxième c'est ginomai. Le verbe ginomai qui veut dire ce qui advient. Alors, on pourrait presque le traduire « ce qui est », mais c'est au sens où ben, « il y eut que », »,« il arriva que ». Voilà, « il arriva que ». On ne fait jamais attention quand on dit « il arriva que l'horloge se mit à sonner ». D'accord ? Ce qui est intéressant, c'est que l'horloge sonne. Oui, mais « il arriva que ». C'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'ordre de l'être, on est dans l'ordre de l'événement, de ce qui advient, qui n'était pas et qui arrive. On passe à l'ordre de l'histoire. D'accord ? Il y a bien la distinction, elle est très très importante. Ce qui est, ce qui advient. Le verbe ginomai, on le retrouve dans les évangiles synoptiques, par exemple, et un peu chez Saint Jean, pour dire « il arriva que Jésus entra dans une maison et là, les pharisiens servirent à souper, se mirent à parler. Il arriva qu'une femme entra avec un flacon, etc. Il arriva que... Voilà. » Eh bien, après la contemplation du verbe, hein, avec le verbe être, hein, trois fois le verbe être, au commencement était le verbe, et le verbe était avec Dieu, et le verbe était Dieu, puis ensuite il était au commencement, voilà. On arrive au verset 3, où il est dit, tout advint par lui. Vous voyez, le verbe être, mais qui n'est pas vraiment la bonne traduction. Ce qui advient, d'ailleurs j'ai fait une erreur, on le trouve trois fois au verset 3. Voilà, voilà. Excusez-moi, hein, c'est verset 3, je me disais que j'étais un peu étonné. Voilà, alors vous voyez, il tout fut, mais la traduction n'est pas bonne. Hein. Voilà, ce qui advint, cela advint par lui, et sans lui, rien n'advint. Donc, c'est l'ordre de la création, on entre dans l'événement. Non pas dans ce qui est éternellement, c'est le Verbe, c'est Dieu, voilà, ce qui advint. Alors, vous voyez déjà la différence. Hein. On contemple le Verbe qui est en Dieu, qui est Dieu, et on contemple ce qui advient. Eh bien, ce verbe advenir, ginomai, on le retrouve au verset 6, hein, pour ceux qui ont une Bible, hein, je vous recommande de venir avec une Bible, au verset 6, il advint un homme, hein, envoyé par Dieu, son nom était Jean. Voilà. Un homme qui advient, qui entre dans une histoire. Donc de façon assez subtile, saint Jean ne nous dit pas simplement « il y a Jean, le Baptiste ». Il dit « il advint, il arriva pour rendre témoignage à celui qui est éternellement ». Voilà. Donc on voit comment l'histoire qui va être portée par le témoignage de Jean, parce que son rôle c'est de rendre témoignage à la lumière, eh bien, ce témoignage dont il sera question dans le deuxième volet, le prologue narratif, eh bien, est subtilement introduit, mais sur l'arrière-fond que c'est le Verbe qui demeure, qui est là. Hein, il y a cette réalité intangible, durable, cet être, hein, le Verbe qui subsiste, qui est là. Hein, mais quelqu'un va entrer dans une histoire pour nous permettre de le connaître. Voilà. Alors, ça, je vous rassure, c'est la partie, je pense, la plus austère, la plus difficile. Ça va, tout le monde n'a pas complètement décroché. Voilà, on essaye d'avancer. Alors, une petite remarque qui, pour moi, reste quand même une surprise. Mais bon, il paraît que ce que je souligne n'est pas très important, mais je le souligne quand même. C'est le fait que vous avez deux figures qui s'entrecroisent. L'auteur de l'évangile, selon la tradition, c'est Jean. Et Jean le Baptiste. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il vint pour témoigner. Vous vous souvenez la dernière fois quand j'ai fait l'introduction, je vous avais dit, Jean c'est celui qui est au pied de la croix et qui dit, celui qui a vu rend témoignage et son témoignage est vrai. Alors jamais l'évangéliste Jean ne se nomme, mais la tradition depuis Saint-Irénée fait quand même le lien avec Jean. On peut penser que l'évangéliste, s'il s'appelait Jean, quand il dit « il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean », et qu'il savait que son propre travail c'était de témoigner, il y a quand même un jeu subtil entre les deux, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, mais je pense que c'est intéressant, cette espèce de mise en abîme, comme si l'évangéliste se reconnaissait à travers ce Jean le Baptiste qui est là, et dont le rôle va être comme celui d'un pivot entre ce que nous ne voyons pas, que lui seul voit. Jean, le témoin, c'est quoi ? Le martyr, hein, dans le martyr chez les chrétiens, c'est d'abord celui qui témoigne, donc qui voit ce que les autres ne voient pas. Jean le Baptiste, il voit, il en sera question tout à l'heure, et il va témoigner. Il dit, moi j'atteste, c'est vraiment lui le Verbe de Dieu. Hein, c'est lui qui fait la jonction entre l'être, hein, que l'on contemple et le devenir, ginomai. Voilà, hein, il y a ce jeu entre l'évangéliste et Jean le Baptiste. Alors, comme je viens de vous le dire, ce prologue n'est pas une contemplation abstraite et atemporelle. C'est un peu l'impression qu'on a, et c'est pour ça que des exégètes, souvent des exégètes libéraux allemands de la fin du 19e, début 20e siècle, ont dit on est dans l'hellénisme, la pensée grecque, philosophique. Ça me semble tout à fait court et pas juste. En réalité, Jean écrit avec une poésie que je vous laisse goûter, mais qui me semble assez évidente, une très grande force. Eh bien, Jean nous donne une tension dramatique extraordinaire où il passe de la contemplation de ce qui est éternel à ce qui advient dans l'histoire, dans notre monde. Hein. La grande question qui se pose, c'est celle de l'accueil du Verbe lumière dans le monde. Comment le Verbe qui est lumière va entrer dans le monde ? Va passer du être au devenir, pour que nous-mêmes, nous puissions passer du devenir à l'être. Voilà. Alors, il y a trois phrases parallèles hein, dans le prologue, vous l'avez sûrement déjà remarqué, à tel point que souvent on confond les trois phrases. Bon, au début, je les confondais. Hein, je vais les lire, mais je pense que vous les connaissez bien. « La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point saisie », verset 5. Plus loin, verset 10, « Il était dans le monde et le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu ». Et verset 11, « Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas accueilli ». Le parallélisme est assez évident. Donc il y a bien, comme toujours, quand il y a un parallélisme, il faut mettre les phrases parallèles les unes à côté des autres et voir ce qu'elles nous enseignent. La première phrase, « La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point saisie », verset 5. Les ténèbres ne peuvent saisir la lumière. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de commune mesure entre la lumière et les ténèbres. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était la lumière. Donc il n'y a pas « au commencement était d'un côté la lumière et de l'autre côté les ténèbres ». Les ténèbres viennent en second. J'aime bien l'expression du père Simons, hein, l'exégète, qui dit « les ténèbres reviennent, mais trop tard hein, ». Ils voudraient prendre leur place, mais ils ne peuvent pas. La place est déjà prise. Alors, on n'est vraiment pas dans un schéma gnostique, vous savez, que le gnosticisme, hein, qui dit il y a la lumière, mais qui se bat avec les ténèbres. Alors, c'est tout le système qu'on va trouver, une espèce de dualisme, hein, qui était très fort, hein, dans la pensée hellénique, enfin, pseudo-pensée hellénique, hein, c'est pas vraiment la pensée grecque, mais dans beaucoup de sectes chrétiennes, il y avait cette idée d'une espèce de dualisme, hein, qui est absolument absent chez saint Jean. Hein. Au commencement, il n'y avait pas les ténèbres. Les ténèbres sont venues, mais il y avait déjà la lumière. Et les ténèbres n'ont pas réussi à saisir la lumière, parce que la lumière est là de toute éternité, mais il y a déjà ce combat. Deuxième affirmation, qui va reprendre cette opposition, mais avec une progression dans la pensée. Le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. Voilà. Le monde vient à la place de ténèbres. Dans un parallélisme, on fait jouer les mots l'un après l'autre. D'accord ? Il y avait les ténèbres, il y a le monde. Vous voyez la petite colonne du centre, hein, ça met les mots les uns à côté des autres. Monde, c'est déjà beaucoup plus précis. Parce que dans le quatrième évangile, le terme de monde, le cosmos, vient assez fréquemment. Le monde est une réalité ambivalente qui désigne l'univers, les hommes, en tant qu'ils sont soumis au pouvoir des ténèbres. Saint Jean le dit, le monde est au pouvoir des ténèbres. On voit comment le diable a son empire en séparant l'homme de Dieu par le règne du péché, etc. Donc le monde, ça désigne les hommes en tant qu'ils sont soumis au pouvoir des ténèbres. Par exemple, Jésus qui dira « Courage, j'ai vaincu le monde hein, ». Le monde en tant que c'est le royaume de Satan. Mais en même temps, le monde, c'est quand même ce monde créé que Dieu a voulu. Et également, ces affirmations très fortes chez saint Jean, je prends notamment au chapitre 3, mais on pourrait en trouver d'autres, « Dieu a tant aimé le monde hein, qu'il a envoyé son fils, qu'il a envoyé son fils, hein, il ne l'a pas envoyé pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Voilà. » Donc le monde est cette réalité un peu ambivalente. Le monde, c'est nous. C'est nous, c'est pas la différence entre un chrétien et quelqu'un qui est dans une secte ou dans les sectes ou certains groupes religieux, on va dire, on se pense pour une troupe de gens bien parce qu'on est dans la bonne religion, les autres sont mauvais. Saint Jean nous apprend qu'en réalité le monde, il est dans notre cœur, il est en nous. Hein, donc il s'agit d'accueillir le Christ pour qu'il chasse les ténèbres. Donc le monde est déjà plus précis que les ténèbres, c'est le monde dans lequel nous sommes. Il était dans le monde, mais le monde n'a pas reconnu celui qui est la lumière, il n'a pas reconnu le Verbe. Voilà. La troisième phrase va encore préciser les choses, on fait un pas de plus, il est venu chez lui, chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueilli. Cette fois-ci, il ne s'agit ni des ténèbres, donc ceux qui s'opposent à Dieu, de la manière la plus générale, ni du monde, ce qui est soumis aux ténèbres, mais que Dieu vient sauver, ce qui est déjà plus précis. Là, il s'agit des siens. Alors, certains exégètes disent qu'il s'agit du peuple juif. La plupart des exégètes disent qu'il n'y a pas de raison que ce soit uniquement le peuple juif, ce n'est pas spécifié ici. Les siens, finalement, c'est ceux qui sont appelés à partager la vie de Dieu. Il est venu partager notre humanité, et donc les siens, c'est ceux qui sont destinés à l'accueillir. Or, ils ne l'ont pas accueilli. Là, nous touchons ici le refus volontaire de l'homme d'accueillir la vie de Dieu. C'est déjà le mystère pascal qui se profile. Et on verra tout au long de l'évangile selon saint Jean comment le mystère pascal est omniprésent. Vous voyez, dans les autres évangiles, vous avez une sorte de progression, une sorte de montée en tension et la Pâque avec des récits assez durs chez saint Luc, chez saint Marc, saint Matthieu. Chez saint Jean, il y a toujours ce combat entre la lumière et les ténèbres et déjà la victoire du Christ parce que les ténèbres ne peuvent pas saisir la lumière, ne peuvent pas l'arrêter. Voilà. Voyez cette progression à l'intérieur du prologue qui nous met déjà de plein pied avec cette idée qu'il y a comme un combat spirituel. Est-ce que nous allons accueillir le Verbe ? Les siens, ça veut dire concrètement, c'est l'humanité, c'est nous. Voilà. Et la question est posée, est-ce que nous accueillons le Verbe ? Or, précisément, avec ces trois phrases qui arrivent de façon assez rythmée, et puis cette introduction dramatique, il y a une sorte de rebondissement. Ils ne l'ont pas accueilli, mais à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et là, on a une expression extrêmement forte. L'évangéliste donne le but qu'il vise dans son enseignement. C'est de nous conduire à la nouvelle naissance, la régénération, par la foi, à tous ceux qui croient en son nom. Au chapitre 20, verset 31, je vous l'avais déjà dit la dernière fois, Jean dit « J'ai écrit cela, je rends témoignage pour que vous croyiez et qu'en croyant vous ayez la vie. » Mais avec ce thème de la régénération, de la nouvelle naissance dont j'aurai l'occasion de vous parler tout à l'heure. Les hommes deviennent enfants de Dieu. Le but, le grand but, le but que poursuit le Verbe, que poursuit le Dieu finalement dans la création, c'est que nous devenions enfants de Dieu. C'est pour ça que cet évangile a cette force tellement grande, c'est que nous voyons comment tous ces moyens mis en œuvre, cette espèce de pédagogie, cette révélation, a comme but que le Seigneur vienne nous chercher et que nous devenions enfants de Dieu par la foi et par la régénération, comme nous le verrons tout à l'heure. Voilà, le terme est très très important, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous voyez le terme « devenir » qu'on retrouve, mais cette fois-ci, ce n'est pas simplement ce qu'il y a à dire dans l'histoire de façon dramatique, mais c'est une histoire qui est habitée par le Verbe, puisque nous devenons enfants de Dieu, comme le Verbe. Troisième point, évidemment, vous allez me dire, c'est le passage que nous connaissons tous par cœur et qui est tellement important dans l'Évangile, et le Verbe s'est fait chair. Voilà. La venue du Verbe dans le monde, qui est annoncée avec les phrases des versets 5, 10 et 11 qu'on a vu au-dessus, la venue du Verbe dans le monde culmine dans cette affirmation « Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous ». De façon plus littérale, il a planté sa tente parmi nous. Et comme quoi, le prologue est beaucoup plus coloré et vivant qu'on ne l'imagine. Il a planté sa tente. Extrêmement beau comme expression. Voilà, d'abord, le Verbe s'est fait chair. Je ne reviens pas sur le terme de Verbe dont nous avons parlé tout à l'heure. Un Verbe qui permet de contempler Dieu. Le Verbe se fait chair. Il faut se rendre compte de la force de cette affirmation. La chair, ça indique la condition humaine. On retrouve ce terme chez saint Jean quand il parle de la chair. D'ailleurs, dans les synoptiques, c'est pareil. Chair, ça veut dire l'humanité dans sa fragilité. Quand Pierre va dire de Jésus, tu es le Christ, le Fils du vivant, Jésus lui dira, ce n'est pas la chair qui t'a dit cela, c'est-à-dire ce n'est pas simplement une pensée humaine. Vous voyez, la chair, ça ne veut pas dire uniquement le beefsteak, enfin quand je prends ça, il y a ça, évidemment, on va le voir. C'est pour ça que Jésus aura la marque des clous, c'est pour ça que Jésus aura faim avec la Samaritaine, etc. Mais la chair, c'est plus, de façon plus large, c'est notre condition humaine dans sa fragilité. Une image qui est soulignée par le fait qu'il y a le verbe planter sa tente, il a planté sa tente parmi nous. La tente, c'est une habitation provisoire en toile qui protège des gens qui vont d'étape en étape, des voyageurs, des nomades. Donc il a planté sa tente parmi nous, il y a vraiment cette idée de fragilité. Voilà, celui qui est le verbe, qui était le verbe être dont je vous parlais au début, non seulement il a accepté de devenir guinobaye, hein, d'entrer dans notre histoire, hein, mais il va jusqu'à partager notre condition de fragilité. Donc là, évidemment, c'est tout le paradoxe du christianisme qui est déjà contenu et qui nous donne le point d'équilibre de tout l'évangile, selon saint Jean, hein, où il y aura toujours la contemplation du Verbe à travers des signes. Vous vous souvenez de ce que je vous disais sur les signes la dernière fois. Voilà. Mais il faut aller plus loin. Quand saint Jean écrit « Le Verbe s'est fait chair », il pense toujours, bien sûr, au logos, la memra, comme je vous le disais tout à l'heure, la memra juive, donc qui va plus loin que simplement le logos grec, hein, à la fois la parole et la sagesse, hein, la sagesse a planté sa tente parmi nous. Il pense à un texte très important, dont je vous recommande la lecture, hein, pour comprendre le prologue, vous pourrez le lire en lisant chez vous, en revenant chez vous. Le Siracide, donc l'Ecclésiastique, c'est la même chose, chapitre 24, le grand discours de la sagesse. Hein, c'est un texte qui est d'une très grande beauté, un des textes centraux de l'Ancien Testament, moins connu que d'autres comme la sortie de la mer ou je ne sais pas quoi, parce que ce n'est pas un récit, hein, c'est un peu comme le prologue, voilà. Mais c'est un texte qui est très très important. Il est dit que la sagesse de Dieu, qui a accompagné tout le travail de la création, a fini par officier dans la tente sainte en sa présence, la présence du Créateur. Vous voyez, la sagesse qui a planté sa tente. Le logos s'est fait chair, évidemment les Juifs, ils connaissent la sagesse et ils disent, évidemment, Jean pense à ce texte de la sagesse, hein, le verbe, la sagesse, le verbe comme sagesse, qui a planté sa tente au milieu de nous. Hein. La tente, évidemment, la tente sainte, c'est une allusion explicite au temple de Jérusalem. Hein, le culte du temple est considéré comme une œuvre de la sagesse, et on se souvient que dans le désert, avant qu'il y ait le temple à Jérusalem, il y avait une tente de toile, hein, dans laquelle les Israélites rendaient un culte à Dieu. Ça vous dit quelque chose, hein. En hébreu, c'est le Ohel Moed, la tente de la rencontre. Hein, donc on sortait du camp, il y avait la tente comme ça, de toile, hein. Et alors la sagesse résidait dans la tente, parce que c'était le culte divin, la perfection de la sagesse, et c'est là que Moïse parlait à Dieu, hein, comme un homme parle à son ami, ou Dieu parlait à Moïse. Et puis Dieu habitait dans cette présence cachée, hein, la Shekinah, ça vous dit peut-être quelque chose, hein, vous connaissez, je vois qu'il y en a qui connaissent bien la tradition juive, quand on dit la Shekinah, c'est-à-dire cette espèce de présence insaisissable, lumineuse, dans laquelle, pardon ?
La nuée aussi.
Alors la nuée, il y a l'idée de la nuée, ça renvoie à la nuée dans le désert, hein, la Shekinah, voilà, qui va accompagner le peuple jusque à Jérusalem et qui va reposer au temple de Jérusalem, ce côté un peu à la fois obscur et lumineux, insaisissable, qui dit quelque chose de Dieu. Et il y a un petit rapprochement intéressant, hein, que les commentateurs, les exégètes n'ont pas manqué de relever, c'est que en grec, hein, il a habité, en fait c'est eskénosène, comme je vous l'ai dit, il a planté sa tente, hein, skeno, hein, le sigma, kappa et nun, hein, qui est la racine de la tente, établir sa tente, hein, eh bien ça renvoie à une racine en hébreu qui est exactement la même, shakan, hein, qui est la tente, qui est le fait de planter sa tente, hein, qui donne la shekina. On a le même terme en hébreu. Donc, il a planté sa tente parmi nous, ça veut dire, c'est la shekina, c'est l'identification de Jésus à la shekina. Le Verbe assume cette présence de Dieu au temple de Jérusalem. Désormais, la Shekinah, elle est en Jésus qui est ce Verbe fait chair. Ça veut dire aussi, c'est un aspect important, qu'il y a une dimension culturelle, hein, qui est plus présente chez saint Jean qu'on ne le dit souvent. On voit chez saint Jean un enseignement un peu abstrait, ou moral, un peu, voilà, sur la charité, mais il y a tout cet aspect culturel qui est là dès le départ, parce qu'évidemment, le Verbe a planté sa tente, ça veut dire, il est venu dans ce temple, et ce temple, il va en être question très très vite après le prologue, au chapitre 2. La première grande manifestation de Jésus, le premier coup d'éclat de Jésus, vous vous souvenez ? Alors, il y a Cana, mais qui n'est pas vraiment un coup d'éclat, c'est dans un petit groupe d'amis. Il va faire parler de lui, il va faire parler de lui au temple de Jérusalem. En expulsant les vendeurs, il va purifier le temple et dans le petit dialogue qu'il va avec les autorités du temple, qui vont dire, mais tu dis que ce sanctuaire va être détruit et tu vas le reconstruire, mais Jésus parlait du sanctuaire de son corps. Voyez, la tente de son corps, évidemment, le Verbe s'est fait chair. Voyez, donc il y a vraiment cette reprise du thème cultuel. Le corps du Christ est le nouveau temple, le lieu où Dieu réside et où l'homme peut rencontrer Dieu, où l'homme va pouvoir offrir le véritable sacrifice. Vous voyez toute l'importance de la chair chez saint Jean, qui est ce temple nouveau dans lequel le Verbe réside pour nous faire connaître Dieu. Voilà. Alors, je termine sur le prologue hymnique de façon synthétique. Vous voyez, le prologue n'est pas un texte abstrait. Il nous met de plein pied avec la narration. J'en retiens trois étapes. Tout d'abord, la préexistence du Verbe, sa divinité, qui est marquée de façon admirable. Hein. Il était auprès de Dieu, pour dire qu'il y a une distinction. Hein. Il était d'abord au commencement, ensuite il était auprès de Dieu, et finalement il était Dieu. Voilà. Deuxièmement, Dieu, personne ne l'a jamais vu, saint Jean le dit. Les hommes ne peuvent pas saisir le Verbe, hein, c'est-à-dire le monde ne l'a pas accueilli, on ne peut pas le comprendre, mais le Verbe vient dans le monde pour nous faire connaître Dieu. Voilà. Et ceux qui l'accueillent dans la foi deviennent enfants de Dieu. Donc dans cette trajectoire, le Verbe veut se faire connaître, veut habiter parmi nous pour que nous connaissions Dieu. Voilà. Donc, cette espèce de passage finalement de l'être au devenir, hein, comme on le disait tout à l'heure. Et le troisième aspect, eh bien, c'est la place de Jean, hein, comme le point, j'allais dire, le charnière, le lieu de, ce qui permet finalement cette rencontre, hein, le rôle décisif du témoin, hein, qui va être là pour que nous puissions accueillir le Verbe par la foi. Ça va?
Oui.
On n'a pas le temps d'aller faire une petite pause, pause cigarette, comme on fait souvent dans ce cas-là, parce que ça fait beaucoup de choses, mais on le fait, on le réduit en 3 secondes, et on repart pour le deuxième volet du prologue, le prologue narratif. Quand j'emploie le terme de narratif, prologue hymnique, prologue narratif, j'emploie un terme qui est souvent employé par les exégètes aujourd'hui. Vous savez, qu'est-ce qu'on appelle l'exégèse narrative, hein, qui dit que le récit, que le texte évangélique est construit comme un récit, un peu comme quand vous lisez un roman, et que donc il y a une sorte de logique, hein, interne. Alors nous n'avons pas le temps de faire cette étude narrative, donc je m'en tiens à quelques thèmes essentiels, mais il faut bien comprendre que le texte change de nature, même si, comme je viens de le dire à l'instant, nous avons été introduits à cette narration, à ce récit, de façon subtile par Jean dans le prologue. Premièrement, la manière dont Jean est introduit et dont Jésus est introduit. Les 4 évangiles sont caractérisés par l'introduction solennelle de Jésus à travers la scène du baptême. Matthieu, Marc, Luc et Jean, la structure de l'évangile, c'est le baptême au Jourdain par Jean-Baptiste. Voilà. Même si Matthieu et Luc ont les récits de l'enfance, qui ont peut-être été ajoutés un petit peu après, la logique de l'évangile, c'est Jean qui rend témoignage à Jésus et Jésus qui est introduit dans son ministère public. Ça, c'est commun à tous. Mais dans le 4e évangile, nous n'avons pas finalement de récit du baptême. Quand vous lisez attentivement, il n'y a pas grand-chose de dit sur le baptême. Le point d'assistance de Jean l'évangéliste, c'est le témoignage. Jean rendit témoignage en disant « j'ai vu ». Très intéressant parce que on ne nous dit pas que la foule a vu, par exemple, l'Esprit descendre sur Jésus. On ne nous dit pas que la foule a été témoin du baptême. C'est Jean qui a vu. Comme je vous disais, le témoin, c'est celui qui voit ce que les autres ne voient pas. J'ai vu et je rends témoignage. Hein ? Encore une parenthèse, on aura un phénomène assez semblable. Au début des Actes des Apôtres, Étienne, on dit c'est le martyr. Martyr, il a versé son sang. Mais martyr, comment ça se dit en français, martyr ? Vous allez savoir, vous connaissez bien la Bible.
Témoin.
Témoin, martyr, c'est la même chose. Donc quand on dit Étienne est martyr, c'est d'abord parce qu'il dit « Je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme qui siège, debout d'ailleurs. » Et là, les gens disent « blasphème, blasphème ». Ils témoignent, les autres ne voient pas. Qu'est-ce que c'est qu'un martyr ? C'est quelqu'un qui voit ce que les autres ne voient pas. Un chrétien est un martyr parce qu'il voit par la foi. Vous voyez ? Jean dit « J'ai vu et je rends témoignage ». Ça, c'est très très important. La notoriété de Jean est telle que les autorités de Jérusalem sont inquiètes. Enfin, plutôt les autorités de Jérusalem qui sont inquiètes de tout mouvement religieux échappant à leur contrôle. Ils essayaient de contrôler, surtout qu'il y avait une effervescence messianique à cette époque. Eh bien, ils envoient des prêtres et des lévites pour l'interroger. Alors, il faut imaginer, les autorités du temple, c'est les grands prêtres, les membres du Sanhédrin. Et il y a des prêtres et des lévites, donc la tribu de Lévi, ce sont des gens qui avaient un niveau un petit peu inférieur, qui peuvent être envoyés, se cacher. Hein, on le verra dans les synoptiques, quand Jésus dit, quand Jean-Baptiste dit race de vipères, vous savez, quand il dit ça, les vipères, c'est ceux qui se cachent. Hein, ils font du mal, mais ils se cachent. Eh bien, ils s'adressent aux prêtres et aux lévites de Jérusalem, qui se mettent au milieu de tout le monde, qui pensent se cacher, mais qui ont des mauvaises intentions. Alors ça, Jean ne le rapporte pas. Ce n'est pas son centre d'intérêt. Voilà, Jean est connu. Jean est quelqu'un de connu. Hein. Or, une espèce de contraste, Jean est connu, les prêtres lui envoient du monde, on l'interroge, et qu'est-ce qu'il dit ? Je ne suis pas. À deux reprises, es-tu le prophète ? Es-tu le Messie ? Es-tu, etc. Je ne le suis pas. Jean ne va pas se définir lui-même. Hein. Il y a une sorte de contraste avec ce qui va ressortir dans l'Évangile. On verra Jésus dire « Je suis la lumière du monde, je suis le pain de vie, je suis le chemin, la vérité et la vie, je suis la résurrection. » Jean, il se définit comme celui qui n'est pas. « Je ne suis pas. » L'humilité de Jean, pas uniquement une humilité morale. C'est pas uniquement que c'est quelqu'un de bien en disant « Oh là là, comme il est humble. » C'est que il veut définir sa juste place. Sa juste place, c'est quoi ? Le seul « je suis » qu'il emploie, c'est « je suis la voix ». Je suis la voix qui crie dans le désert. Je suis la voix qui crie dans le désert, rendez-moi le chemin de Dieu. Je ne suis que la voix. Alors, et deux remarques sur ce « je suis la voix ». Tout d'abord, cette phrase, vous la connaissez bien, voilà, au début de l'Évangile, c'est le début du second Isaïe. Hein, la voix qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, le peuple d'Israël qui était à Babylone. Hein, préparez le chemin du Seigneur parce que le Seigneur vient vous sauver. Préparez le chemin, bientôt il y a l'imminence de la rédemption, du salut. Bientôt vous allez être sauvés. Préparez le chemin du Seigneur. Le deuxième Isaïe, ça je vous en ai déjà parlé, je crois, la dernière fois. J'en parle assez souvent parce que les évangiles y jouent un rôle très important. Hein, Isaïe 40, 55. Isaïe 40, 55. Hein, voilà. C'est ce prophète qui nous a laissé les poèmes du serviteur. Très très beau texte. Où il est question de ce personnage mystérieux. Hein, quand Siméon dit la lumière pour éclairer les nations, c'est un texte du serviteur, du second Isaïe. Hein. Quand on dit, vous savez, il n'avait plus figure humaine, on lui a arraché la barbe, etc., comme un agneau qu'on conduisait à l'abattoir, c'est le second Isaïe. Hein, donc ça va être appliqué au Christ. Voilà. Hein, Jean-Baptiste s'identifie au second Isaïe, celui qui dit « bientôt vous allez être sauvés ». J'ai toujours pensé, pour comprendre la force du second Isaïe, du prophète du second Isaïe, et comprendre que c'est Jean-Baptiste lui-même qui l'assume, hein, des gens dans un camp de concentration fin de la guerre en 1944, et quelqu'un arrive, il dit « ça y est, les Américains sont en train d'arriver ». Alors, on est encore dans le camp, mais préparez-vous bientôt, ça y est, la libération est imminente. Alors bon, j'emploie l'image qu'on peut, mais pour que ça frappe un peu, mais je crois que c'est ça, le peuple d'Israël en exil. Ça y est, nos ennemis sont vaincus, vous êtes toujours à Babylone, mais maintenant vous pouvez préparer le chemin du Seigneur, il va venir vous chercher. Vous imaginez le moment où on se dit, waouh, Seigneur, voilà, grande action de grâce. C'est là qu'il y a ces chants merveilleux du second Isaïe, une espèce de louange incroyable. Le Seigneur qui dit, je vais faire toutes choses nouvelles. Le monde ancien s'en est passé. Les choses nouvelles sont en train de venir, ne les voyez-vous pas? C'est ça, Jean-Baptiste, c'est ça. Le monde ancien est en train de passer. Moi, je suis là. Je suis encore là parce que je suis un prophète de l'Ancien Testament. Je suis encore un prophète de l'Ancien Testament. C'est pour ça qu'il a un truc en poil de chameau. Ça, c'est Matthieu qui le dit. Mais prophète de l'Ancien Testament, bientôt ils vont disparaître parce qu'on a enfin ce que nous désirons. Le Rédempteur, le Sauveur. Préparer le chemin du Seigneur. Voilà. Il va être... voilà. C'est lui qui va montrer Jésus comme le serviteur d'Isaïe. Voilà. Donc, Jean, qui est connu, voilà. Et pourtant, son seul rôle, c'est d'être la voix. Alors sa deuxième réflexion, c'est saint Augustin, je vous mets le texte à la fin, vous pourrez le lire pour votre méditation, un très beau texte. Saint Augustin montre bien que la voix et la parole, ce n'est pas tout à fait la même chose. Jean, c'est la voix. Je suis la voix. Or, Jésus, qu'est-ce qu'il est ? Il est la parole. Il est le logos. La parole, c'est ce qui reste. C'est ce qui est. C'est ce qui demeure. La parole, c'est ce qui est porté intérieurement, le logos intérieur. Hein ? Jésus est la parole. Quand je suis en train de vous parler, vous entendez la voix. La voix, il y a un moment, ça y est, vous avez entendu, c'est fini. Il y a que la cassette là qui est en train d'enregistrer et ils vont remettre la voix, mais la voix, elle n'a pas d'intérêt en elle-même. Alors, vous pouvez dire la voix très douce à entendre, ou alors vraiment d'impénible, ou je ne sais pas quoi, une voix grinçante, ou une voix... Ça, c'est le médium. Mais la voix, une fois qu'elle a résonné, elle disparaît. Mais j'espère qu'à travers cette voix, il y a bien la parole, c'est-à-dire la compréhension de l'Évangile, le goût de lire l'Évangile, certaines idées qui vont finir par nous toucher. Et il faut que la voix accepte de disparaître pour que la parole demeure. D'accord ? Ça, c'est saint Augustin qui le dit de façon extrêmement forte, extrêmement jeune, extrêmement juste. Voilà. Et saint Jean est conscient de sa mission. Il porte la parole, mais il est la voix. Et la voix, il y a un moment, elle va se taire. Pourquoi il dit « Il est passé devant moi parce que avant moi, il était. » Avant moi, au commencement. Alors, vous avez Jean qui est connu, qui va s'effacer pour laisser la place à Jésus. Jésus, lui, n'est pas encore venu. Jean lui-même dit « Je ne le connaissais pas. » Il faut qu'il y ait l'Esprit Saint qui vienne. Mais il dit aussi à la foule « Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. » Je ne sais pas si vous avez pris conscience de ça, mais imaginez-vous, voilà, vous êtes la foule, et il y a Jean qui baptise. Il y a Jean, je ne me trompe pas, Jean qui est là, et Jean qui baptise. Voilà. Et Jean va vous dire « Au milieu de vous » commencez à regarder à gauche, à droite, se tient quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous allez me dire, oui, de fait, nous ne nous connaissons pas tous. Karl ne connaît pas tout le monde, par exemple. D'accord, pas encore. Très bien. Qui sait ? Et c'est là que Jean, par son témoignage, va faire émerger Jésus de la foule. Pour qu'on puisse dire, mais c'est lui. C'est lui l'agneau de Dieu. D'accord ? Voilà. Donc, le rôle important de Jean, parce que si Jean... Je risque de le refaire souvent, ça. Vous ne m'en voudrez pas. Mais on a un Jean magnifique qui connaît la Terre Sainte, qui est allé au bord du Jourdain. Pas me priver, quand même. Voilà. Jean, c'est le témoin, celui par qui on peut connaître Jésus. S'il n'y a pas Jean, on ne peut pas connaître Jésus. Au milieu de nous se tient celui que nous ne connaissons pas. Quand Jérôme, saint Jérôme, nous dit « Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ », les Écritures, elles sont figurées par Jean. Si je n'ai pas les prophètes qui me désignent le Christ, Jésus, c'est un homme dont je ne vais pas reconnaître la divinité. J'ai besoin du témoignage des Écritures. Donc j'ai besoin du témoin. Il était là pour rendre témoignage. Voilà. J'ai vu et je rends témoignage. Donc Jésus sort de l'anonymat. C'est vraiment ce moment-là, la scène du baptême. Voilà. Alors, je vais aller plus rapidement.
Excuse-moi.
Oui ?
Il ne le connaissait pas en tant que Christ, mais il connaît Saint Jean parce qu'ils sont cousins.
Hein. Mais ils sont cousins, Là, la connaissance, évidemment, est... Mais ils sont cousins, cela dit, la tradition, nous, surtout les peintures, on nous représente Léonard de Vinci ou Andrea del Sarto, vous nous montrez la Vierge avec Élisabeth et puis Jean, ces deux cousins, c'est tellement merveilleux, ils passeront des vacances ensemble, merveilleux, je te les confie, je te le confie pendant un mois, ben, très bien, comme ça il viendra aussi à Nazareth, il verra l'air de Galilée, très bon, on peut imaginer que ça s'est passé comme ça, puis Jean avec les petits moutons qui jouent comme ça, voilà, c'est très très joli. Why not ? Oui, exactement. Avec ce tableau de Raphaël où on se demandait si c'était Bacchus ou Jean-Baptiste. Ça, c'est très, très intéressant. Ça montre l'ambivalence. Voilà. Mais voilà, Jean-Baptiste et Jésus, la connaissance du cousin, pourquoi pas ? Ça, on peut broder, mais on n'a pas d'élément pour ça. On n'a aucun élément. On sait juste qu'on dit Élisabeth, la maman de Jean-Baptiste, était la cousine. Mais on ne sait pas si Jean a vu Jésus ensuite. Voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'il dit « Moi, je ne le connaissais pas ». Évidemment, connaître comme... le Fils de Dieu. Moi, je pense quand même que il y a cette manière de dire j'ai eu besoin d'une révélation. Mais il y a quand même cette jubilation de Jean dans le sein de sa mère. Voilà. Voilà. Mais ça, c'est chez Saint Luc, et dans l'humanité de Jésus, il a fallu que Jésus soit révélé à Jean. Voilà. Donc Jean peut rendre témoignage. Si on n'a pas le témoignage de Jean, si on n'a pas le témoignage des prophètes, si on n'a pas le témoignage de la voix qui désigne, eh bien Jésus reste inconnu. C'est très important de prendre conscience de ça. Jean qui dit, mais comment ça se fait que l'histoire à Nazareth s'est pas racontée dans les évangiles? Mais parce que au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. Et il fallait qu'il soit manifesté à Israël, et c'est par le don de l'Esprit qu'il est manifesté. Alors je vais aller un peu rapidement s'il y a deux, trois questions qui sont posées. Les titres de Jésus. Parce que là, on a la figure de Jésus qui commence à émerger. Hein. Tout d'abord, deux titres qui sont comme issus logiquement du prologue. Un homme, Jean qui dit, voilà, il y a un homme au milieu de vous. Hein. Et puis en même temps, Jésus va être désigné comme le Fils de Dieu. Ça rappelle le prologue, on le retrouvera au moment du procès. Hein, rapprochés l'un et l'autre, hein, à côté de Pilate, voici l'homme. Hein. Et en même temps, le fait que l'accusation, il se fait fils de Dieu. Le titre de rabbi qui apparaît, qui est un terme commun dans le judaïsme. Donc ça, c'est les dénominations, j'allais dire, plus immédiates. Il y a deux titres qui renvoient une fonction messianique. Hein, Messie et roi d'Israël. Mais que Jésus ne reprendra pas à son compte. La grande méfiance de Jésus vis-à-vis du messianisme, parce que vous savez que le messianisme était très ambigu. Pour ceux qui étaient là l'an passé, hein, vous vous souvenez, je vous l'avais dit, Jésus est très très méfiant vis-à-vis du messianisme. Il va redéfinir le messianisme à partir de lui-même, même s'il reprend les images de l'Ancien Testament. Hein, c'est un public de chrétiens, je ne sais pas s'il y a des juifs parmi nous, mais pour des chrétiens, pour nous, c'est « Oh ben, les juifs, ils attendent le Messie, Jésus il fait des miracles, c'est le Messie, pourquoi les juifs ne reconnaissent pas Jésus ?» Mais si les choses étaient aussi simples, c'est un peu comme des cubes, on les met les uns sur les autres, mais ce n'est pas comme ça. C'est que les Juifs, dans l'Ancien Testament, les Juifs au temps de Jésus, ils attendent un Messie nationaliste, une vision assez humaine, et Jésus ne veut pas de ça. Et il va redéfinir un messianisme comme une onction pour accomplir, et je vais y arriver tout de suite, baptisé dans l'Esprit Saint. Donc Jésus se méfie de ces titres. Voilà. Il y a le nom du Fils de l'homme qui peut avoir une connotation messianique, mais qui reste ici plutôt assez mystérieux, hein, que Jésus reprendra d'une manière assez singulière dans la suite de l'Évangile. Ce qui est plus marquant, ce sont deux titres qui sont repris au poème du serviteur, hein, dont je viens de vous parler. Le titre d'élu, l'élu de Dieu, hein, Isaïe 42, le premier chant du serviteur. Hein, voici mon élu, celui que j'ai choisi. Hein, il va être la lumière pour les nations. Voilà, donc déjà la mission de Jésus, quand Jésus dit « Je suis la lumière du monde », hein, peut-être également une référence à ce poème du serviteur. Et ensuite, le titre étonnant de l'agneau de Dieu, mais pas simplement l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Ça, c'est une référence très claire au serviteur souffrant d'Isaïe 53. Hein, ça vous dit quelque chose, hein, l'agneau qui n'ouvre pas la bouche tandis qu'on le conduit vers le sacrifice, mais hein, par sa justice, par son sacrifice, par le don de sa vie, il va justifier les multitudes. Voilà. Alors là, il y a vraiment cette référence explicite. Hein, Jésus assume la figure de ce serviteur du second Isaïe, celui qui est là pour accomplir la rédemption, le salut de Dieu. Je vais terminer avec la référence à l'Esprit Saint. Finalement, vous avez remarqué que le titre de Messie ou de roi d'Israël s'est donné par des disciples, mais ils ne sont pas forcément habilités pour parler de Jésus. Il y a le titre de un homme qui reste assez vague. Le terme le plus précis qui va être dit à propos de Jésus, c'est il est celui qui baptise dans l'Esprit Saint. Enfin, tout aussi précis d'ailleurs que l'agneau de Dieu. Alors, Jean baptise avec de l'eau. On va voir dans l'évangile selon saint Jean le couple eau et esprit. Les deux vont ensemble. Nicodème, ça vous dit quelque chose? Voilà, Nicodème, un dialogue dans la nuit avec Jésus, et Jésus lui dit « Nul, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut voir le royaume de Dieu. » Donc, ce baptême, non pas simplement d'eau, comme Jean-Baptiste, pour la confession des péchés, mais aussi d'Esprit Saint, est nécessaire pour vivre du royaume de Dieu. Il y a d'autres références que je vous mets là. Vous remarquerez qu'à peu près toute la première partie de Saint Jean, dans chaque chapitre, il y a de l'eau. Ça m'avait beaucoup intrigué, cette histoire-là. J'ai toujours demandé pourquoi. Voilà, la source, c'est vraiment ça, c'est le cas de le dire. C'est vraiment ça. Jésus baptise dans l'Esprit Saint. Mais l'Église a maintenu le baptême de Jean parce que le symbole de l'eau, qui rappelle la loi, comme on va le trouver aux noces de Cana, l'eau reste importante, comme également la purification. Voilà. Jésus annonce une nouvelle naissance d'eau et d'Esprit Saint. C'est exactement le baptême chrétien. Le catéchisme reprend ce passage de l'Évangile. Quand il y a un baptême, l'Esprit Saint, ce n'est pas uniquement à la confirmation. L'Esprit Saint opère une régénération. Alors quand nous parlerons de la Samaritaine, là ce sera purement un récit, vous verrez, ce sera plus avec des histoires, des dialogues un peu truculents, ce sera plus vivant. Eh bien Jésus promet une eau vive, une source pour la vie éternelle. Et il précisera au chapitre 7, à la fête à Jérusalem, au temple de Jérusalem, « Celui qui croit en moi, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. » Et Jésus parlait de l'Esprit Saint que devaient recevoir ceux qui avaient cru en lui. Vous avez compris ce que dit Jésus ? Baptisé dans l'Esprit Saint qui me fait renaître, l'Esprit Saint vient en moi comme si j'avais une source qui partait de mon cœur, comme si l'Esprit Saint partait de mon cœur. Une source, c'est ça que dit Jésus. De son sein, de son cœur, couleront des fleuves d'eau vive. C'est l'Esprit Saint qui devient en moi le principe même de la vie spirituelle, de la vie chrétienne. Alors ça donne toute l'orientation de l'Évangile, le sermon sur la montagne, et le discours après la scène, pardon. Jésus parlera de ce don de l'Esprit qui sera fait après la résurrection. Jésus sur la croix, on nous dit qu'à un moment de sa mort, inclinant la tête, il livra l'Esprit, une parole étonnante chez saint Jean, Jésus livre l'Esprit. Au-delà de la mort, il y a cette profusion, cette abondance. Jésus donne l'Esprit, il livre l'Esprit, et c'est ce qu'il fera le matin de Pâques, le soir de Pâques, pardon, avec les apôtres, recevez l'Esprit Saint pour donner le pardon, pour annoncer le salut. Voilà. Alors, ça fait beaucoup de choses, vous aurez le temps de reprendre chez vous. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui ?
Oui, j'ai écouté sur KTO l'émission, c'était avec Simon, justement.
Ah, d'accord.
Le prologue de Saint-Jean. Et il dit que le mot que croire, que le mot foi n'existe qu'une fois dans l'Évangile, c'est dans l'épître de Saint-Jean. Que le mot croire est différent de la foi. Alors, je voulais savoir que veut dire exactement le mot croire.
C'est vraiment la même chose. Il y a peut-être qu'il parlait du substantif, mais le fait de croire est tellement central dans l'évangile de saint Jean. Là on l'a déjà vu. Alors évidemment, il est dans le prologue. Mais ensuite, crois-tu au Fils de l'homme ? Oui, Seigneur, je crois. Dis-moi qui il est, je le suis. Voilà, et il fait cet acte de foi.
Et pourtant, dans le credo, on dit qu'on croit en la mort, à la résurrection du Christ. Et là, c'est plutôt qu'on croit plutôt qu'on est régénéré par Dieu, puisque le point central, c'est qu'on reçoit une nouvelle vie. On a le pouvoir de devenir enfant de Dieu.
Oui, alors c'est très intéressant de faire le rapprochement, parce que vous voyez que pour nous, la foi, c'est « j'ai des convictions ». Ou je décide. Voilà. Je fais confiance. Chez saint Jean, la foi, c'est vraiment le principe d'une vie, c'est une relation avec Dieu. C'est pour ça que c'est tellement lié à cette régénération. Je reçois l'Esprit Saint et je réponds avec tout mon cœur, mais dans une relation vitale. C'est pas uniquement intellectuel, c'est pas uniquement je fais confiance, mais ça reste quelque chose d'un petit peu extérieur, vous voyez. La foi, c'est une relation. On dit que c'est une grâce, une vertu théologale. Ça veut dire que c'est un don que Dieu me fait par l'Esprit Saint, qui me permet d'accorder mon cœur à celui du Christ. Vous voyez ? C'est vraiment une grâce. Il faut voir, la foi est une grâce. Est-ce qu'il y a une autre question ? Ou pas ? Oui ?
Je
ne
comprends pas la construction du prologue.
Oui ? Oui. La construction du prologue, je crois que vous avez bien vu, il y a quand même cette contemplation extraordinaire. Au commencement était le verbe. J'ai insisté sur les deux verbes être, devenir. Voilà, on entre dans la création. Dieu poursuit un but. Le but, c'est d'être accueilli. Mais on voit que le monde n'a pas accueilli. Voilà. Donc ça, c'est le cadre dramatique. Parce qu'on a du mal à accueillir la lumière. Voilà. Et de façon assez abrupte, il y a cette affirmation, mais qui ne peut être qu'une bonne nouvelle, qui ne peut être que quelque chose que... Voilà. Et le verbe s'est fait chair, c'est-à-dire finalement, c'est la réponse que Dieu donne au fait que le monde n'a pas été capable d'accueillir le verbe. Alors, on a l'impression que Dieu va au-delà de ce qui était le mouvement habituel, puisque là, il... Pardon ? Ah ben ensuite, chez Saint Jean, je ne suis pas sûr qu'il faille voir les choses de façon trop chronologique à ce moment-là. Cela dit, il y a un passage dont je ne vous ai pas beaucoup parlé dans le prologue. Il dit « D'abord, la loi est venue, nous avons reçu grâce sur grâce, et avec Jésus-Christ, on a reçu encore plus. » Donc la loi était quand même déjà une préparation. Mais on peut dire aussi, dans les livres de sagesse, il est dit « Regardez la création, comme c'est beau. » Vous savez que Jean ne fait pas que témoigner, il prend aussi des photos magnifiques. Voilà. Quand on voit les photos de Terre Sainte, eh bien, il y a quelque chose de beau. Or, le livre de la sagesse nous dit « Dieu s'est fait connaître à travers les œuvres de sa création. » Or, c'est sagesse 2, je crois, c'est repris dans la lettre aux Romains, « Or, les hommes pécheurs n'ont pas été capables de le reconnaître. » Donc, c'est toujours cette thématique. Dieu, de multiples manières, essaye de se faire connaître. À le logos, le verbe, c'est vrai aussi sur le plan intellectuel, les philosophes grecs qui ont essayé de chercher, mais qui n'ont pas été capables de l'accueillir. Voilà. Et donc, il y a cette espèce de... cette intervention, puis je vais terminer par là parce qu'il est l'heure, mais cette intervention forte, le verbe se fait chair pour entrer dans notre histoire.
C'est un peu les vignerons homicides. En désespoir de cause, il envoie son fils.
Alors, les vignerons homicides, on peut dire, c'est en désespoir de cause. Là, c'est plutôt une sorte de montée magnifique.
Il va de plus en plus loin.
Il va de plus en plus loin. Voilà, c'est cette idée qui va de plus en plus loin. Voilà. Eh bien, écoutez, merci à vous. Est-ce qu'il reste des feuilles Non ? D'accord. Bah écoutez, la prochaine fois, alors pour ceux qui n'ont pas, ou j'en fabriquerai pour la prochaine fois. Alors, ceux qui veulent le plan du cours avec la bibliographie.